Aujourd'hui. Donc, une toute bienvenue. Bienvenue aussi à vous qui nous regardez en ligne. Soyez les bienvenus. Petite annonce. Quelqu'un a trouvé ses clés juste devant l'église là-bas. Donc, si ça appartient à quelqu'un, vous pourrez venir les rechercher vers moi. Ça n'a pas l'air de faire. Il n'y a personne qui réagit, donc j'imagine pas. Mais voilà, si jamais, c'est moi qui les ai. Ça n'a pas l'air d'être une clé voiture, non. Non. Voilà, nous allons... Excusez-moi, madame. Est-ce que
oui.
Je peux vous aider?
Ouais, peut-être. En fait, je suis à la recherche d'une équipe.
Une équipe?
Oui.
Mais quel genre d'équipe? Vous faites quoi avec cette équipe?
Ben, en fait, cette équipe, elle m'aide à encadrer des talents. Pour ça, il me faut une équipe.
Ok, je vois. Et puis, mais quel genre de talents?
Oh, j'ai une liste avec des critères. Hein.
D'accord. Donc ça, c'est les personnes que vous cherchez pour cette équipe.
Oui, oui. Alors, attendez.
Ma liste. On va bientôt commencer notre culte, même.
Non. Alors, ils m'ont... Attendez, je vais créer avec
vous. C'est comme ça.
Ouais, c'est ça. Alors, il me faut des personnes disponibles tous les deux dimanches... Non. Deux dimanches, tous les deux mois. Voilà.
Okay. Des personnes qui sont disponibles deux dimanches de suite, tous les deux mois, ok.
Oui.
Quoi, quelque chose d'autre?
Bon, il faut avoir accès à Internet et il faut savoir imprimer des leçons qui sont préparées à l'avance.
Bon, aujourd'hui, ça semble assez facile, hein. Je crois que la plupart des gens savent faire ça, très bien. Autre chose?
Oui, c'est ça. En fait, il faut compter 1 à 2 heures pour ces deux mois de préparation.
Ah ok, donc ça c'est les entraînements de l'équipe, donc 1 à 2 heures par mois, ok.
Ouais, c'est ça. Mais après, il faut aussi les entraînements le dimanche matin avec ces jeunes talents. Bien sûr, évidemment, hein, il ne faut pas les laisser seuls.
Oui, tout à fait.
Oui.
Très bien, très bien. Je vais reprendre mes notes, parce que je ne sais plus ce que je dois dire. ok, et puis si parmi nous, y a des gens qui se disent, oui, moi je peux faire partie de cette équipe, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
Alors, il peut venir me voir après ce rassemblement et je laisserai ma carte de visite aussi ici pour ceux qui sont intéressés de se joindre à notre super équipe de talents.
Très bien, très bien. Bon, c'est une invitation, hein. Vous pouvez l'accepter ou pas, mais voilà, vous avez entendu, il n'y a pas beaucoup de choses requises finalement. Ça paraît important de faire partie de cette équipe, n'est-ce pas?
Oui, parce qu'on a beaucoup de talents, on a des vingtaines de talents qui vous attendent.
Ce serait dommage que ces talents se perdent. Hein. Et puis, voilà, on a besoin de vous. Donc, si ça vous semble faisable, contactez le coach Rebecca qui se fera un plaisir de vous donner plus d'informations.
C'est ça. Et je viendrai une autre fois pour une autre équipe de talents qui aura aussi besoin des encadrants, une équipe, quoi.
C'est ça. Très bien. Merci.
Merci à vous.
On peut continuer maintenant?
Oui, allez-y, allez-y.
Super, merci beaucoup. Hein.
Je reprends mes lunettes.
Pardon pour cette... interruption. Voilà, je vous propose de prier et puis nous allons commencer ou continuer ce culte. Merci Seigneur, merci parce qu'on peut se réunir aujourd'hui en ton nom. Merci parce que nous avons la liberté de le faire dans ce monde qui est chaotique en ce moment. Merci pour ce privilège que nous avons. Merci d'apaiser nos cœurs, d'apaiser nos pensées, de nous rendre disponibles à ta présence, à ce que tu veux nous dire, à ce que tu veux faire en nous et au milieu de nous aujourd'hui. Nous voulons déposer nos soucis, tout ce qui nous préoccupe, et nous voulons simplement venir pour t'adorer, te dire que nous t'aimons et que nous voulons entendre ta voix aujourd'hui. Amen.
Amen.
Et je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, pour chanter ce premier chant qui chante « Gloire à son nom ». J'aime beaucoup ce chant qui proclame que tout ce que Jésus a fait, sa venue sur terre, son sacrifice, sa résurrection, son retour. Alors ce matin, proclamons, malgré nos voix peut-être encore un peu enrouées, que toute gloire revienne à Dieu.
Oh, God.
C'est peut-être difficile pour vous de chanter gloire à son nom ce matin. Certaines personnes dans notre communauté vivent la douleur indicible du deuil, d'autres la maladie, d'autres la dépression. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que notre Dieu vient nous relever. Et je vous invite à chanter le prochain chant comme une prière pour celles et pour ceux qui souffrent parmi nous.
Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de l'étonnement, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton père. Qui le console ici-bas, entend les cris de ma prière, seul mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton père qui le console ici-bas. Entends les cris de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.
Seigneur, nous voulons mettre à ton écoute ce matin. Nous voulons répondre à ton appel. Quand rien ne va plus, viens au secours de notre peu de foi. Quand je me sens au contrôle de tout, viens au secours de mon peu de foi. Et quand j'ai pas l'impression que tu es là, viens au secours de mon peu de foi.
Entends-tu les coups qui frappent sur ton cœur? Entends-tu l'écoute car il est bientôt là? Il t'attend à l'orée de ton âme. Il t'attend les bras, il te réclame. Dans ta gloire, qui a perdu au moment de la douleur, qui répond lorsque la vie perd ses couleurs. Reviens mon âme adorée, le Seigneur. Reviens l'embrasser qui consomme. Viens au secours de mon peu de foi. Viens mon amour, j'ai tant besoin de toi. Tu es Tu es l'espoir sur le rivage, la belle de mes nuits. Éclat puissant à travers l'orage de ma vie. L'amour cloué sur le bois tel un malfaiteur. Secours voué à la croix pour tes serviteurs. Tu es l'espoir sur le rivage, la belle de mes nuits. Éclat puissant à travers de ma vie. L'amour cloué sur le bois tel un malfaiteur. Secours voué à la croix pour tes serviteurs.
Voilà, pour les habitués, ceux qui ont l'œil, vous aurez peut-être remarqué que notre orateur d'aujourd'hui n'est pas Philippe Anchaud. Ceux qui auront lu l'Actu Mérin ou qui auront écouté les annonces sauront pourquoi, mais pour les autres, c'est parce qu'il y a un échange de chair, un échange de pasteurs aujourd'hui. Donc notre pasteur habituel, Philippe Anchaud, est à l'église de l'Espérance, et puis le pasteur de l'église de l'Espérance, Benjamin Anchaud. Je ne crois pas qu'il y a de lien de parenté. Hein, ouais.
Non.
Maintenant de famille, mais voilà. Et parmi nous aujourd'hui, donc bienvenue à toi. Ça fait plaisir de te voir, de te revoir, parce que là aussi, pour ceux qui étaient là il y a quelques années, Benjamin est connu de notre église. Tu étais en formation parmi nous. J'espère que je ne dis pas de bêtises.
Exactement, j'ai fait un stage.
Tu étais en stage. Ouais. Voilà, bienvenue, bon retour parmi nous. J'ai eu une idée... très créatif. Ce matin, je lui dis, ça serait chouette que le pasteur prie pour les enfants avant qu'ils partent dans leur groupe et que les enfants prient pour le pasteur. Sur le papier, c'était une super idée, mais quand j'ai tâté le terrain avec les enfants, ça a jeté un froid. Alors, je vais reposer la question au cas où, parce qu'il y a des nouveaux enfants aussi. Est-ce qu'un enfant serait d'accord de prier pour le pasteur ? Quand je dis prier, c'est une prière toute simple. Hein. vraiment. Merci Jésus pour le pasteur. Bénis-le. Amen. Est-ce que quelqu'un se sentirait le courage de faire ça? Sinon, c'est pas grave. Hein. Il y a bien un adulte qui le fera. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais demander à Benjamin de prier pour vous. Et puis après, je demanderai peut-être à quelqu'un dans la salle pour changer un petit peu de prier pour le pasteur. Donc, vous pouvez déjà vous préparer.
Alors, volontiers. Il y a 2 semaines, pour l'école du dimanche, souvent on prie pour les enfants avant qu'ils partent. Et là, le président du culte a fait un peu comme toi. Il a proposé aux enfants de prier pour les moniteurs. Donc, si vous voulez, il y a un enfant qui veut prier pour moi, c'est très volontiers. Ben, Seigneur, on te confie les enfants. Merci parce que tu les aimes particulièrement. Merci pour les moniteurs qui seront avec eux. On te prie que tu les rejoignes les uns et les autres. Que ta grâce soit avec eux. Amen.
Amen. Et est-ce que quelqu'un serait d'accord de prier pour notre orateur du jour? Vous voyez les enfants, il n'y a pas que vous qui vous gênez. Hein. Sinon je le fais, hein. Paul Robert, merci beaucoup.
Au Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour la présence de Benjamin au milieu de nous ce matin. Tu veux le bénir, le garder, lui donner toute l'audace nécessaire pour nous apporter ce que tu désires nous dire. Que nos cœurs soient ouverts à entendre ta parole. Oui, nous le bénissons ton nom, sans oublier Philippe Anchaud, là-bas
à l'Espérance.
Amen.
Amen.
Voilà, les enfants, vous pouvez aller dans vos groupes et puis on se voit tout à l'heure.
Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Il y a quelques visages que je connais, d'autres que je découvre. En tout cas, c'est toujours un plaisir de venir. Vous avez des salutations de mon épouse, qui ne peut pas être là ce matin. Des salutations aussi de toute l'église de l'Espérance, donc qui se trouve au Grand Nancy. On me pose souvent un peu la question, mais vous êtes qui? Alors, on est une petite église. On est entre 25 et 60 au culte, donc 25 quand il n'y a pas beaucoup de monde, 60 quand c'est Noël ou Pâques, j'exagère un peu, des fois on est même plus. On a le défi un petit peu aussi d'avoir envie d'annoncer l'évangile autour de nous, et ça c'est vraiment quelque chose qui est défiant aujourd'hui. Depuis une année, on a quelques nouvelles personnes qui se joignent à l'église, qui est très encourageant. Souvent c'est des chrétiens de par-ci, par-là, qui connaissaient déjà Jésus et qui sont en recherche d'une église. Et puis ben, notre souhait, c'est vraiment que l'évangile puisse rayonner. On a des activités pour les enfants aussi qui fonctionnent plutôt bien. Et ça, c'est réjouissant. Ça permet aussi de toucher un petit peu d'autres personnes dans les environs de l'église. Ce matin, je vais parler de 2 Pierre 3. Et pourquoi j'ai choisi ce texte? Eh bien, avec l'église L'Espérance, on est dans une série sur 2 Pierre. Et il y a 2 semaines, on a abordé ce texte. Et en lisant ce texte, ça m'a permis d'aller plus loin dans une des questions que j'ai rencontrées souvent en parlant de Jésus autour de moi. Alors, je propose qu'on découvre ce texte ensemble, et puis comme ça, vous pouvez voir, voilà, ça s'affiche déjà à l'écran, donc vous allez déjà voir un petit peu la question qui est là, sous-jacente. Bien-aimés, voici déjà la 2e lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous, envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Alors voilà, c'est un texte saisissant. Et on arrive là, dans cet épître de Pierre. Et Pierre appelle ses lecteurs à faire preuve d'intelligence. Et il va répondre à une des questions des non-croyants, des impies, comme il les appelle ici. En fait, Pierre distingue deux catégories d'êtres humains. Il y a d'un côté les croyants et de l'autre les non-croyants. Il n'y a pas cette possibilité, cette idée qu'on pourrait être, que Pierre laisserait la possibilité d'être croyant non pratiquant. Pour lui, la foi se met en pratique. On croit et on fait tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. La patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en nous et y sont avec abondance, elles ne nous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit en 2 Pierre, le chapitre 1, versets 5 à 8. Et lorsqu'on partage notre foi dans notre entourage, il arrive qu'on entende cet argument. Où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Les versets 3 et 4 de notre texte. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, ce n'est pas en lisant de Pierre que j'ai entendu cet argument. Je discutais passionnément de ma foi avec des amis, et puis on m'a dit, Jésus, ça fait 2000 ans qu'on dit qu'il va revenir. Hein. On te connaît, Ben, hein, mais il n'y a rien qu'à changer. Alors, je ne me rappelle pas exactement ce que j'ai répondu. Certainement que j'ai essayé de bafouiller une réponse pas très convaincante. Et Pierre, ici, est extrêmement clair. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Voulons qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et je pense que quand les gens ils me remettent en question sur le fait que Jésus ne va pas revenir, ce n'est pas juste une idée métaphysique, bon, certains croient qu'il va revenir, d'autres pas, et finalement ça a assez peu d'impact sur notre foi. J'ai l'impression, quand j'ai été confronté à cet argument, de dire « mais Jésus ne va pas revenir », en fait, ça me permet de vivre là, ce que j'ai envie de vivre. Je peux, peu importe ce que je vais faire, parce que de toute façon, Jésus ne reviendra jamais. Donc, je ne serai pas jugé pour mes actes, donc je mène la vie que je veux. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Or, on pourrait reformuler ça autrement. Dieu ne tarde pas, il fait preuve de patience. Ou encore, on pourrait dire, Dieu ne manque pas de moyens, ni de puissance, il est en train de faire preuve d'amour. Si Dieu faisait tarder la venue de Jésus-Christ, cela donnerait l'impression qu'il est en quelque sorte retardé, qu'il y a quelque chose qui empêche le retour de Jésus. Or, il pourrait y avoir toutes sortes de raisons. Il pourrait ne pas avoir la capacité de le faire. Ou peut-être Jésus n'est pas vraiment ressuscité. S'il n'est pas vraiment ressuscité, comment pourrait-il revenir? Ou encore, Satan n'a pas vraiment été vaincu, il est en train d'empêcher le retour de Jésus-Christ. Mais non, Jésus-Christ est ressuscité. Satan a été vaincu et Jésus va revenir. S'il n'est pas encore revenu, ce n'est pas parce que Dieu manque de puissance, c'est parce qu'il est en train de prendre patience, parce qu'il nous aime ardemment. Il veut qu'un maximum de personnes soient sauvées. Il veut qu'un maximum de personnes entendent parler de lui et puissent le connaître. Il veut que vous parveniez à la connaissance de Jésus. Que vos enfants soient sauvés, que vos petits-enfants soient sauvés, que vos proches, que vos amis, vos voisins, que tous soient sauvés. Parce qu'il nous aime. Or, lorsque je parlais de cet argument, on m'a dit, mais c'est complètement stupide. Car en repoussant à plus tard la venue de Jésus-Christ, eh bien, on augmente le nombre de personnes qui vont arriver en enfer. Et oui, les chrétiens ont toujours été en minorité. Donc, oui, il y a toujours plus de chrétiens qui sont sauvés, mais proportionnellement, il y en a encore plus de personnes qui sont en train de se perdre. Alors, une question que je me pose, et que j'aimerais vous poser, et pourra encore en discuter après si vous voulez, quelle sera la valeur d'un être humain après le retour de Jésus? Alors, la question est absolument horrible, je suis tout à fait d'accord, mais autant se poser des questions maintenant, pendant qu'on peut se les poser, et essayer de voir si ça peut nous faire avancer dans notre foi. La Bible dit qu'il y aura d'un côté ceux qui ont connu Jésus-Christ et de l'autre ceux qui ne l'ont pas connu et qui seront, les descriptions sont absolument horribles, qui seront rongés éternellement par des vers, qui iront brûler éternellement, qui seront chassés loin de la présence de Dieu. Or, il semble que les seules choses qu'on laisse dans un tel état de déchéance, ce sont les choses qui n'ont plus de valeur. Quand on voit quelque chose de valeur par terre qui est en train d'être piétiné, on le ramasse. Et là, Dieu dit, mais éternellement, ça va être comme ça. Et de l'autre côté, il y aura les disciples de Jésus-Christ qui vont recevoir l'honneur, la gloire, des couronnes, un nouveau vêtement, qui auront accès, libre accès, au Seigneur de l'univers. C'est juste incroyable. Prenons un exemple. Prenons l'exemple d'une peluche, d'un doudou, et appelons-la les Woody. En tant qu'un enfant considère Woody comme son jouet préféré, il sera choyé, valorisé, il ira partout avec lui. Et bien sûr, sa valeur ne va pas dépendre de l'état de propreté du fameux doudou. Un même couvert de boue, quand il aura traîné par terre, l'enfant, quand il va le voir, il va le prendre dans ses bras et il n'hésitera même pas à le mettre dans la bouche. Les parents, quand ils vont constater l'absence du précieux doudou, seront même prêts à faire des pieds et des mains pour aller retrouver le jouet préféré de leur enfant. Mais imaginons un instant que Woody, ce petit cow-boy en peluche, cesse d'appartenir à un enfant. Tout peint de boue, il a été sucé, il est délavé, il est troué. À votre avis, que va devenir Woody? Alors pour être très clair, Dieu ne nous considère pas comme ses jouets. J'ai pris cet exemple parce que c'est une métaphore qui est développée dans Toy Story. Mais Dieu nous aime. Dieu vous aime. Il t'aime personnellement. Et lorsque Dieu égare un de ses enfants, il fait des pieds et des mains pour aller le rechercher. Il est prêt à tout pour retrouver ses enfants qu'il a perdus. Et en faisant preuve de patience, il est en train de réunir un peuple innombrable pour le jour du salut. Et ce qui compte, ce n'est pas tellement ceux qui vont être perdus, mais c'est tous ceux qui vont être sauvés et qui vont être regroupés autour du Christ. Et il prend le temps de rechercher chacun d'entre nous. Personne n'est sans valeur à ses yeux. Pour chacun, il est prêt à faire des heures de route. Peu importe notre état, qu'on soit couvert de boue ou de honte, qu'on soit tout beau, tout propre, il a envie de nous prendre dans ses bras et il n'hésitera pas un seul instant. Le problème, c'est que c'est déjà un petit peu trop tard. L'humanité tout entière se trouve dans une déchetterie à la porte de l'incinérateur. La création entière est vouée à la destruction. Et il y a un gardien qui interdit l'entrée et surtout la sortie à tous ceux qui voudraient connaître un autre destin. Alors que fait Dieu? Il a envoyé son Fils pour venir nous sauver, pour prendre notre place, pour être détruit à notre place, afin que nous, on soit sauvés. Alors peut-être que Dieu est en train de parler à votre cœur et que vous avez envie de vous laisser saisir par le Christ, mais n'attendez plus, c'est le bon moment. Dites à Jésus que vous avez envie d'être pris par lui, qu'il vous prenne auprès de lui. Peut-être aussi qu'un petit sourire fait sa place sur vos lèvres. Alors vous êtes des gens très polis, ce sera sur les lèvres de votre cœur. Et puis que vous dites, mais c'est trop facile comme argument. Dieu ne fait pas preuve de patience. Il ne viendra jamais. Parce qu'il n'existe pas. D'ailleurs, s'il existait, il ne laisserait pas le monde dans cet état. De toute façon, un Dieu qui envoie des gens en enfer, je n'en veux pas. Mais est-ce que ce n'est pas précisément ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de prendre patience parce qu'il veut que personne n'aille en enfer. Il veut que tous puissent se repentir et se tourner vers lui. Si Dieu jugeait immédiatement ceux qui commettent des crimes, alors il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de mal. Mais il se produirait quelque chose d'absolument terrible. Nous aurions peur de lui. Enfin, je ne vais pas vous prêter les mêmes sentiments qu'à moi. Mais si Dieu punissait les fautes immédiatement, j'aurais peur, très peur. Tu dis un mensonge, hop, une diarrhée directement. Tu dis du mal de ton patron, une jambe cassée. Il le méritait. Mais tu te prends pour qui? Deux jambes cassées. Tu dis quelque chose de faux sur Dieu, le créateur de la vie, ton maître et ton juge. Quelle sera la sentence nécessaire pour punir cette faute? La mort, à n'en pas douter. Et si cette perspective nous réjouit quant aux criminels de guerre, je me dis, mais je suis le prochain sur la liste. Alors heureusement que Dieu prend patience et qu'il ne juge pas immédiatement mes actes. Vous l'aurez compris, si Dieu jugeait immédiatement nos actes, eh bien, j'aurais la trouille d'être condamné. Mais Dieu ne veut pas ça, il ne veut pas un peuple d'esclaves. Il veut des enfants qui entrent librement dans une relation d'amour avec lui. Alors, il fait preuve de patience. Les hommes ont une certaine tendance à la contradiction. D'un côté, ils aimeraient que tous soient sauvés, qu'il n'y ait pas de punition. Et d'un autre, les hommes ne supportent pas l'injustice. Mais imaginons que Dieu supprime l'enfer et laisse éternellement les fautes impunies. On se retrouve tous, toute l'humanité, pour l'éternité. Et à côté de toi, il y a assis les plus grands criminels de guerre qui n'ont pas été punis pour leurs fautes, qui ne le seront jamais et qui savent qu'ils peuvent laisser libre cours à tous les désirs qu'habitent leur cœur, à toutes leurs convoitises. Aussi grand que soit cet endroit, je n'aimerais pas m'y trouver, parce que ça ne ressemble pas à une description du paradis, mais plutôt d'une description de l'enfer. Mais Dieu ne laissera pas le péché impuni. Il est en train de prendre patience. Alors on pourrait imaginer que Dieu décide, dans sa souveraineté, de faire disparaître le mal qui est en nous, le mal qui est dans chaque être humain. C'est génial! Mais c'est ça la solution. Vous imaginez, chacun, Dieu vient extriper le mal qui est au fond de notre cœur. C'est exactement ce que Jésus-Christ est venu faire. Nous proposer un changement de vie, une transformation radicale. Par son esprit, il veut nous purifier de tout mal. Il veut nous transformer en profondeur. Et quand il reviendra, là on est dans une lutte, mais quand il reviendra, la transformation sera terminée. Mais peut-on imaginer que Dieu opère cette transformation sans le consentement de la personne? Cette transformation qui va venir toucher nos désirs les plus intimes. Si la personne n'est pas consentante, il y aurait une sorte de violation de la personnalité, un lavage de cerveau, un abus de pouvoir. Aussi pur que l'intention ait été. Et Dieu nous aime et il ne veut pas abuser de nous. Alors, il adresse des avertissements et nous manifeste son amour de bien des façons différentes pour nous attirer à lui. Il prend patience. Il se donne le temps pour nous convaincre. Un peu comme avec un arbre qui n'aurait pas donné de fruits. On ne l'abat pas directement. On met une pelletée de fumier, du compost, puis on espère que l'année suivante, il donnera du fruit. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au lieu de saisir l'occasion pour se tourner vers Dieu, les hommes disent, mais il est où Dieu? De toute façon, il ne viendra jamais. Je peux vivre ma vie comme je l'entends. Cela fait 2000 ans qu'on dit qu'il revient. Peut-être même plus. Et le monde tourne toujours de la même façon. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par les eaux. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels seront gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Si je reformule, Dieu a tout créé pour sa parole. Il est tout puissant et sans lui, rien n'existerait. Deuxièmement, il y a eu le déluge qui a permis un nouveau départ. Et troisièmement, aujourd'hui, par la même parole qui a créé le monde, eh bien, le monde est stable jusqu'au jour du jugement et de la ruine des non-croyants, des non-chrétiens. Ah ben, je trouve beaucoup plus saisissant de dire la ruine des non-chrétiens que la ruine des hommes impies. Parce que les hommes impies, c'est ces criminels de guerre, c'est ceux qui vont dans les maisons closes, des choses qui n'existent pas à Genève. Tandis que quand on dit non-chrétien, ben c'est beaucoup plus terrifiant, parce que le non-chrétien, c'est mon voisin, c'est un membre de ma famille, c'est quelqu'un que j'aime, un ami. Et cela oblige à prendre en considération ce que dit Pierre. Alors ces trois points, la création, le déluge, le fait que le monde est stable par la parole de Dieu, sont dénigrés par de nombreuses personnes, notamment des scientifiques. Mais une remarque d'un homme de science genevois il y a une dizaine d'années m'a vraiment marqué. Il m'a dit, la seule chose qui me donne la certitude que les lois de la physique sont stables, c'est parce que Dieu les soutient. L'homme qui m'a dit ça, il était en train de préparer un projet pour envoyer des appareils de mesure dans l'espace sur des satellites. C'est une grosse tête. Les lois de la nature ne sont pas plus immuables que Dieu. Elles sont immuables parce que Dieu a parlé. Mais s'il prononce une autre parole, comme lors du déluge, alors les lois de la nature peuvent changer. Un jour, il articulera une parole de jugement. Et le monde tel que nous l'avons connu disparaîtra. Non, Dieu ne tarde pas. Dieu ne manque pas de moyens. Il patiente car il nous aime. Mais s'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Alors je ne vais pas essayer de comprendre quel est le rapport de Dieu au temps. Mais m'en tenir à quelque chose de très simple en m'inspirant d'une réflexion de John Piper. Partons du principe que le temps s'écoule de façon linéaire. Notre perception du temps n'est pourtant pas linéaire. Il n'est pas rare de discuter avec une personne âgée et de l'entendre dire qu'elle a l'impression que la semaine dernière, elle allait encore à l'école. Qu'il y a 2 jours, elle s'est mariée et que hier encore, ses enfants étaient à la maison. Parfois, le temps nous semble très court quand on vit quelque chose de joyeux. Parfois, le temps nous semble très long. Par exemple, quand on écoute un professeur donner sa leçon de façon monotone et soporifique. Pour un même événement, la perception du temps peut être différente. Ma dernière fille a eu 4 ans il y a quelques jours. Et elle voit chaque jour ses frères et sœurs aller à l'école. Alors forcément, elle se réjouit d'aller à l'école et puis elle me dit « Papa, papa, est-ce que je vais bientôt aller à l'école ?» C'est une évidence. En août, elle va commencer l'école. Pour moi, c'est demain. Quand je vais lui dire « Mais oui, bien sûr, tu vas bientôt aller à l'école. » Est-ce que c'est vraiment bientôt pour elle? Est-ce que fin août a un sens pour elle? Ou est-ce que demain elle me reposera la même question. « Mais papa, tu m'as dit que j'allais bientôt à l'école. » Essayons d'imaginer la joie du Père quand Jésus-Christ est revenu vers lui après avoir vaincu le mal. Waouh ! Ça a dû être la fête ! Si c'était mon fils qui revenait après une bataille comme celle-ci, peu importe le moment où il repart, je dirais, mais tu viens à peine d'arriver que tu repars déjà. La perception du temps joue un rôle, et nos émotions également. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embraserés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Jésus revient bientôt. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Alors, n'attendons plus. Renonçons au mal et tournons-nous résolument vers le Seigneur. Je vous propose qu'on puisse prier. Comment ne pas te remercier, toi qui es le créateur de la vie, qui a tout créé parfait, et qui pourrait, d'une seule parole, tout détruire pour tout recommencer. Merci, parce que tu prends patience. Merci parce que tu adresses des signes et des avertissements. Merci parce que tu m'aimes, et que je peux dès à présent me tourner vers toi. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons besoin que tu viennes nous transformer, que tu viennes retirer le mal qui est attaché à nous. Merci parce que nous avons cette assurance que Jésus a déjà payé pour nous et que nous pouvons être réconciliés avec toi. Seigneur, nous voulons accepter cette réconciliation et continuer à grandir avec toi. Amen.
Je vous propose de prendre un temps de prière, de réflexion par rapport à ce que nous avons entendu. Nous voulons répondre à Dieu. Pourquoi répondre à Dieu? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça nous aide à ancrer ce que nous avons entendu, à ne pas juste passer par-dessus ou passer à la suite, comme nous faisons trop souvent. Nous avons beaucoup de sources d'enseignement, beaucoup d'informations qui viennent dans nos vies. Il nous faut parfois prendre le temps de laisser les choses descendre dans nos cœurs, dans notre tête, et puis prendre le temps de répondre à Dieu. Qu'est-ce que je pense de ce que j'ai entendu ce matin? Qu'est-ce que tu me dis et comment est-ce que je veux te répondre, Seigneur? Donc prenons un temps de prière par rapport à cela. Je partage juste deux, trois choses qui m'ont marqué, moi. Peut-être que d'autres choses vous auront marqué personnellement. Pour moi, la chose qui ressort et qui est ressortie dans ma vie particulièrement, c'est le fait que Dieu fait preuve de patience envers nous. Et je pourrais dire, Dieu fait preuve de patience envers moi. On a parlé des impies, de ceux qui sont en dehors de nos églises, en dehors du corps de Christ. Mais il y a aussi les chrétiens, nous, moi. Et Dieu est vraiment patient avec moi, encore et encore aujourd'hui. Donc ne pensons pas qu'il fait preuve de patience uniquement pour ceux qui sont au dehors. Mais il est aussi patient avec nous. Ils sont bien souvent encore rebelles dans nos cœurs. Et ils nous aiment ardemment. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie, qui va avec sa patience. Et je prie que chacun d'entre nous puisse l'expérimenter, le connaître profondément. Cet amour tellement grand, tellement puissant. Voilà, prions.
Une personne dans la salle. sauvée, qu'elle puisse accepter le Seigneur Jésus dans son cœur et pour la vie éternelle. Amen.
Amen.
Seigneur, ton sacrifice qui t'a coûté si cher pour nous réconcilier avec ton Père montre à quel point tu nous aimes, Seigneur. Que cet amour que tu répands dans notre cœur nous pousse à l'annoncer autour de nous, que nous aimions assez les gens qui nous entourent pour qu'ils découvrent aussi ce bonheur suprême, Seigneur, de te connaître. Que nous soyons vraiment conduits par ton Saint-Esprit.
prendre une offrande maintenant et j'aurai besoin de 3 personnes pour m'aider avec cette tâche. Si vous êtes d'accord de vous approcher. Jennifer, merci. C'est bon, on en a 3. Merci beaucoup. Comme son nom l'indique, c'est une offrande. Elle est volontaire, comme un cadeau. Nous faisons à Dieu pour les besoins du fonctionnement de notre Église. Donc, sentez-vous vraiment libre de donner ou pas ce matin. Merci pour votre générosité. Quelques annonces pour terminer ce culte. Tout d'abord, j'ai entendu dire que quelqu'un avait fêté ses 80 ans hier.
Plus fort,
il faut le dire plus fort. La personne qui vient de fêter ses 80 ans n'a pas entendu, c'est ça? Ça, c'est la meilleure. J'ai presque cru que c'était voulu, en fait. Donc, il y a quelqu'un qui a fêté ses 80 ans hier. Joyeux anniversaire, Elisabeth. Et quand on fait ça, on est obligé de poser la question. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, parce que je ne suis pas informé sur tous les anniversaires. Est-ce qu'il y a d'autres anniversaires? Alors, on va dire dans la semaine passée ou la semaine à venir, peut-être. Levez la main, manifestez-vous. Non, c'est plutôt calme niveau anniversaire. Très bien. Je ne voudrais pas oublier quelqu'un. Demain, lundi, Tricot & Co, comme son nom l'indique, on tricote, je ne sais pas s'il y a aussi de la broderie ou d'autres choses, mais voilà, c'est pour tout le monde. Il y a du thé, il y a du café, il y a des petits biscuits, et il paraît que c'est très sympa, je n'ai pas encore participé, mais c'est entre 15h30 et 18h demain, ici dans les locaux de l'EM. Mardi, 20h15, la rencontre de prière communautaire. C'est juste 20h15, parce qu'on a une réunion à 20h et une autre à 20h15, et je ne sais jamais laquelle est quand. C'est ça, et c'est ce que Philippe m'a dit en plus il n'y a pas longtemps. Et c'était à
20h? Je préfère 20h15, mais...
Ah, c'est ça. À un moment donné, ce serait bien qu'on lisse et puis qu'on fasse tout à 20h, je crois. En tout cas, moi, ça m'aiderait beaucoup. Je ne sais pas si je suis le seul, mais voilà. Ou tout à 20h15. Ou 13. Ah. Bref, on vous tiendra au courant. Donc il n'y a pas de rencontre de prière communautaire, en tout cas rien d'organisé. Vous êtes bientôt libre de prier. Mercredi à 14h, nous aurons le culte d'adieu et de reconnaissance pour la vie d'Heidi Heiniger au CEPOM. Et puis ce culte sera suivi d'une collation ici à l'EM. Je vous demanderai d'ailleurs à l'issue de ce culte d'empiler les chaises par pile de 10. Il y a juste à faire ça, après on se débrouillera pour les déplacer, mais voilà, comme ça on gagnera un petit peu de temps pour la préparation de ce temps mercredi. Il y aura certainement
de nouveau pas mal de monde, donc voilà, pensez à venir bien à l'avance, mais ça commence à 14h au CEPOM. Je vous rappelle également que tout à l'heure, nous aurons un repas communautaire, donc pas de café, désolé hein, pour ceux qui aiment bien ça. Je sais qu'il y a, des grandes addictions dans notre société, il y a Internet et le café. Je l'ai su parce que j'ai vécu en communauté, et puis à chaque fois qu'il y avait soit plus de café, soit plus d'Internet, c'était la panique. Donc voilà, paniquez pas, c'est normal, il n'y aura pas de café juste après, mais il y aura du café après le repas par contre. Donc si vous restez, vous êtes bon. Si vous n'avez rien amené pour le repas, comme d'habitude, on le redit, il y a toujours assez. Donc vous êtes vraiment tous et toutes les bienvenus pour ce temps de repas communautaire. Je propose d'ailleurs qu'on le fasse dans cette salle, vu qu'on aura déjà enlevé les chaises et qu'on aura besoin de tables pour mercredi. Comme ça, on aura déjà les tables qui seront mises en place. Il faudra juste qu'on attende un petit peu et puis on aura déjà fait un bout du travail pour mercredi. Voilà, mais je vous redirai tout ça tout à l'heure. Je vous invite à vous lever, je vais prier pour terminer. Encore une fois, Seigneur, merci. Merci pour ton grand amour, merci pour ta patience envers nous tous et envers ce monde qui va mal, on le sait, et qui a tellement besoin de toi. Seigneur, nous sommes tiraillé entre cette prière qui est de dire « Seigneur, reviens bientôt pour mettre fin à tout cela, à tout ce mal que nous voyons chaque jour autour de nous et aussi dans nos vies. » Et en même temps, on a envie de dire ben, « Tarde à revenir parce qu'il y a encore tellement de gens qui ont besoin de toi autour de nous. » Alors Seigneur, que nous puissions avoir tout le temps ces deux prières dans nos cœurs. Que cette semaine, nous puissions voir les gens, les voisins, les collègues qui sont là autour de nous, qui ont besoin de toi. Et qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, leur offrir l'Évangile, soit par des paroles, soit par des actes, soit par une prière. Et puis que nous puissions, eh bien, comme hâter ton retour, afin que ouais, tout ce mal qui est là autour de nous puisse enfin cesser. Que justice soit faite et que ton amour sois vraiment présent dans chacune de nos vies. Seigneur, bénis-nous chacun pour cette semaine. Amen. Bon dimanche, et puis à tout à l'heure pour ceux qui restent.